Battle de clavier, mais ça on le fera à la fin.
Qui porte battle ?
En fait, la musique à la base, elle fait marcher les oreilles, ok ? Elle se transmet d'une manière orale. Encore aujourd'hui, dans les pays d'Orient, par exemple, c'est surtout avec l'oralité qu'on fonctionne. Moi, vous le savez, je suis un grand fan de l'oralité. Bref, à partir du moment qui a inventé la portée, ce sont les moines au XIIe siècle, en disant la musique, elle peut nous faire faire des choses parfois qui sont un petit peu, j'allais dire, qui sortent, parce qu'il y a deux grands courants, la musique apollinienne et la musique dionysiaque pour les Grecs et pour les chrétiens. Plus tard, ça va être la musique de Dieu et la musique du diable, avec une opposition. Alors que chez les Grecs, ben, on a besoin des deux courants. De temps en temps, on a besoin d'être apollinien, c'est-à-dire d'être un petit peu dans une forme de musique spirituelle. Et puis, en même temps, la musique dionysiaque, c'est la musique de transe, c'est celle qu'on danse à plusieurs, c'est celle qui vous reconnecte avec votre animalité. Et les Grecs, de l'Antiquité, disait les deux musiques sont nécessaires. C'est après qu'on a fait la séparation. Et les religieux ont toujours voulu maîtriser la musique, puisque c'est avec la musique qu'on parle finalement aux esprits. Et ce, depuis, j'allais dire, les tribus premières. Celui qui avait le droit de jouer l'instrument de musique, c'était le sorcier, c'était le chaman, parce qu'avec son instrument, il parlait aux esprits de la nature. Au XIIe siècle, on dit, ça suffit le bordel maintenant. L'Église a décidé de canaliser un petit peu ce chant qui peut partir partout. Et c'est là qu'on va inventer, la portée. Même nos notes do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est les premiers mots d'un cantique. Hymne à Saint-Jean, d'un cantique, exactement.
Richard, si vous voulez jouer un petit air de pipeau pendant André, n'hésitez pas. Hein,
alors, ensuite. Allez-y, Richard. Non.
Poursuivez.
Donc, la musique n'aime pas qu'on l'enferme. Alors, Jean-Sébastien Bach et les baroques. C'est là qu'il y a un port. Arrête, Richard. Parce que j'ai l'impression d'être Daniel Morin, je te dis. Et là, je vais dire une horreur.
Reconcentrez-vous, André Manoukian.
En fait, Bach, on a l'impression qu'il invente tout, mais au contraire, il simplifie un petit peu, et lui aussi, il va mettre des règles. Parce que lui aussi, son job, c'est quoi? C'est de jouer, c'est de pisser des copies pour la messe sans arrêt.
Si, t'entendrais.
Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'à l'intérieur de ces règles qui sont contraignantes, par exemple, au Moyen-Âge, on a le droit de se servir que de cartes et de quintes, parce qu'on trouve que la tierce, c'est beaucoup trop sensuel. Vous avez senti
la
sensualité de cette
chose-là. Il y a des trucs dans le bas du dos, André.
Arrêtez, André.
Voilà, c'est complètement obscène, on est d'accord. Voilà. Quant à la septième. Oh là là.
On dirait le téléfilm sur M6 érotique un dimanche.
Exactement. Donc, Bach, qu'est-ce qu'il fait? En fait, c'est un improvisateur de génie. Quand il écrit l'art de la fugue, en fait, c'est une méthode pour que chacun puisse jouer une fugue. D'ailleurs, la dernière fugue, elle est inachevée. Et c'est parce qu'il dit, finissez-la vous-même si vous avez compris. Exemple. Un jour, il va voir le roi Frédéric II de Prusse, et l'autre, il est tout content qu'enfin Bach arrive, parce que Frédéric II, il avait Carl-Philippe Emmanuel dans son orchestre, qui était le fils de Bach, et tous les jours, il disait, quand est-ce que ton père, il vient? Quand est-ce que ton père, il vient? L'autre, il envoie un SMS à son père, putain, papa, viens vite, le roi, il en peut plus, faut que tu déboules et tout. Bach arrive éreinté, et l'autre, il lui dit, regardez, mon nouvel instrument, et c'était un piano forte, l'ancêtre du piano. Et tout d'un coup, le roi sort sa flûte, et lui dit, regardez, j'ai composé un thème. Et là, il lui fait le truc le plus pourri de la terre. Il fait ça. C'est le roi qui joue. Hein. Jusqu'ici, ça va à peu près. Et là... Mais qu'est-ce que c'est que cette descente chromatique? On fait jamais ça. Ça, c'est un chat qui marche sur un piano.
Après, il était roi, il n'est pas que ça à foutre tomber sa journée.
C'est ça. Alors, à ce moment-là, Bach s'assied, majesté, c'est trop beau. Il fait ça. Et il fait ça, Bach.
Pour le faillot.
Etc. Et il va en faire un des plus beaux morceaux qui s'appelle l'offrande musicale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a pris les notes pourries du roi et il en a fait quelque chose, mais d'une manière instantanée. C'est exactement la pratique du jazz. C'est-à-dire que vous avez une phrase, un thème et vous improvisez dessus. Autre exemple, Beethoven, il a 17 ans. Il habite Bonn. Il y a un riche mec de Bonn qui déboule chez Beethoven et qui dit « Mais tu peux pas rester ici, je vais t'emmener à la capitale, à la Nouvelle Star, tu vas faire ton casting. » Et qui c'est le roi? de la nouvelle star, enfin le roi du casting, enfin le roi des musiciens à l'époque, et ben évidemment c'est Mozart. Mozart, il a une trentaine d'années, il vit à Vienne. Donc le vieux prend le jeune Beethoven, déboule chez Mozart. Mozart, il est avec ses potes, en train de jouer aux cartes. Il y a deux trois putes qui sont là parce que c'est normal, parce que c'était comme ça qu'il vivait.
Comme à la nouvelle star.
Exactement.
Quoi.
Et tout d'un coup, Mozart voit arriver le vieux, il fait merde la corvée, parce qu'il est obligé de faire plaisir au vieux, puisque le vieux lui donne du pognon. Donc il prend le gamin Beethoven, il dit allez vas-y. Donc il se met dans son petit cabinet, il joue, Beethoven joue son morceau qu'il a préparé depuis deux mois, parce que c'est un morceau très important pour lui, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il s'aperçoit que Mozart en a rien à foutre. Alors Beethoven dit à Mozart, et c'est Richard qui va jouer Mozart, jouez-moi un thème et j'improviserai dessus.
Alors on va prendre un petit mouvement de sonate.
Allez. Et là, Beethoven, il fait... etc, etc, etc. Et là, Mozart dit, il ouvre la porte, il dit, écoutez ce nom, Beethoven, le monde entier en entendra parler. Et on va finir très court. Charline, donnez-moi une note.
Ah, j'adore le mi bémol.
Voilà, ok. Mi bémol.
Fa dièse.
Fa dièse, putain, c'est bien.
Un ré.
Ré.
Un bon vieux ré.
Et puis...
Moi, je voulais dire ré aussi, mais il me l'a piqué.
Alors, une autre.
Mi.
Putain, non, c'est pas...
Mi bémol,
c'est trop moche.
Alors, je bats qu'il aurait fait direct un truc qui
alors,
claque.
Enlevez les bémols. Allez, on va recommencer.
Mi.
Pour être dans un principe de tonalité. Mi.
Fa.
Fa.
Do.
Do.
Ré.
Mi, fa, do, ré.
Mi, fa, do, ré.
Richard, allez-y, on va vous faire quelque chose avec ces quatre notes-là. Donc, ce sera vous, les compositeurs, quelque part. C'est parti, Richard.
On va peut-être déposer la SACEM avant, non?
Main, deux claviers, Richard Lornac, André Manoukian.
Sur une composition, aussi, hein. Sur une composition de Charline Vanhoecker. Merci, Constance.
Merci.
C'était collectif.
Alors, expliquez-nous comment il y a une écoute optimale, une concentration optimale. Comment, qui suivait l'autre? Comment ça a fonctionné?
Ça alternait.
On se répondait.
Voilà.
On s'écoute, on se répond et on sait qu'on travaille dans une gamme qui va nous donner un champ dans lequel il n'y a pas de fausses notes possibles. Et puis, à ce moment-là, on peut jouer pendant des heures.